Ce message vous est proposé gratuitement. Gratuitement. Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Alors, gloire à Dieu. Ce matin, je vais vous inviter à tourner dans la parole de Dieu. On va lire ensemble dans Nombre, chapitre 13. Nombre, chapitre 13. Et maintenant, ce matin, l'enseignement s'intitule « Emparons-nous du pays ». Est-ce que c'est possible avec Dieu? Amen. Avec Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit, la Bible nous dit. Alors, on va prier ensemble, on va pencher nos têtes et on va remettre ce temps au Seigneur. Seigneur Dieu, on vient devant toi encore une fois et on veut te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. On veut te remercier, Seigneur, pour les saintes écritures que tu nous as données, qui nous donne la liberté et la révélation qu'on a de besoin. Et ce matin, je prie que ton Saint-Esprit puisse nous éclairer, nous donner vraiment ta vision pour l'avancement, Seigneur Dieu, dans notre région et même tout à travers la francophonie. On te remercie, Seigneur Dieu, pour ta présence parmi nous, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à tourner dans Nombre, chapitre 13. Et ce matin, on va regarder l'histoire des espions. Vous connaissez sûrement l'histoire. Ici, on va le lire ensemble. Et par la suite, on va voir que ce Seigneur a à nous raconter concernant les espions et les deux camps qui existent dans le monde chrétien. Alors, Nombre, chapitre 13, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. » Voyez-vous ici, Dieu avait déjà dit, « Je donne ce pays-là. » Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Au verset 26, « À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le pays, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et leur montèrent les fruits du pays. » Verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. On va voir, il y avait 12 personnes envoyées dans la terre promise pour espionner, voir qu'est-ce qu'il y a dans ce pays-là. Et voici le rapport de la majorité. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Savez-vous, il y a des gens qui vont voir que oui, en servant Dieu, il y a des bénédictions. Il y a le lait et le miel. Oui, je suis d'accord que c'est vrai. Amen, vous dites vrai à ça, c'est vrai ça. Mais, il y a le mot « mais » qui commence le prochain verset, le verset 28. « Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, donc des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Éthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. » Alors, il disait, oui, c'est vrai, c'est un pays de bénédiction, mais il y a des géants dans le pays, n'est-ce pas? Des fois, on peut dire, oui, Dieu promet des grandes choses, mais voici toutes les raisons pourquoi je peux pas croire que c'est pour moi. Connaissez-vous des fois des gens comme ça qui connaissent la bonté de Dieu, mais ils peuvent pas s'approprier la bonté de Dieu dans leur vie parce qu'ils prennent le mot « mais » pour disqualifier toutes les promesses. Verset 30. « Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une autre taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak et la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs comme des sauterelles. » Alors, vous voyez ici, il y avait la vision de Dieu, la vision de Caleb qui était « Emparons-nous du pays, on est capable avec Dieu. » Et il y avait l'autre vision, « Oui, c'est vrai, il y a la bénédiction, mais il y a des géants. On est comme des sauterelles à leurs yeux. On est des moins que rien. » Mais il y a deux visions, il y a deux camps, même dans le corps de Christ aujourd'hui. Il y a le camp qui dit « Oui, je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc, c'est le camp de la foi. Et il y a un camp du doute. Où on va dire, oui, c'est vrai, Dieu est bon, mais il peut pas être bon pour moi. Connaissez-vous des gens comme ça? Mais, gloire à Dieu, on fait pas partie de la gang du doute, nous autres. On fait partie de la gang de la foi. Amen. Alors, ce matin, on sait ça. Il y a deux camps, et puis on va se positionner dans le camp de la foi. Si jamais vous réalisez que vous êtes dans le camp du doute, c'est merveilleux parce que vous pouvez changer de camp. En rentrant ici, là, vous venez de l'apprendre, vous pouvez changer de camp et dire, moi, je vais marcher avec le Seigneur Jésus, je choisis la foi. Parce que dans la parole de Dieu, ça nous dit, il est impossible de lui plaire sans la foi. Si on veut faire plaisir à Dieu, si on veut plaire à Dieu, faut l'honorer en croyant sa parole. C'est comme si moi, je dis quelque chose à mes enfants, j'explique à Floramé et à Félicité, bien, je vais vous emmener au zoo. Et s'ils croient leur père, ils vont s'attendre que je vais les emmener au zoo, n'est-ce pas? C'est la même chose quand Dieu dit, je vais faire quelque chose pour vous. Si on dit, ben, c'est ça que tu dis, mais en fait, moi, je crois pas vraiment que tu vas le faire. Bien, si, en tant que parent, on fait une promesse comme ça à nos enfants, et puis si on avait cette réponse-là, ben, je doute vraiment de ta parole, ça serait une blessure pour nous, n'est-ce pas? On serait déçus. Mais pourquoi tu me crois pas? Est-ce que je t'ai déjà menti? Et pourtant, Dieu est toujours bon, toujours fidèle. Il nous ment jamais. Et pourtant, des fois, on dit, ben, je doute que tu vas vraiment faire qu'est-ce que tu dis. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va regarder ensemble? On va voir comment s'emparer du royaume de Dieu, comment s'emparer du pays. Alors, je vous invite dans Habacuc, chapitre 12 et verset 14. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ensemble des promesses de Dieu concernant le pays que le Seigneur veut nous donner. Dans Habacuc, chapitre 2 et le verset 14, il est écrit, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Et je crois que nous vivons dans un temps dans l'histoire où la gloire de Dieu est en train d'être répandue partout à travers le monde. Et on est béni, on fait partie de cette génération qui voit la gloire de Dieu déversée. Et peut-être vous vous dites, « Ouais, mais Joël, moi, je suis pas sûr qu'on voit vraiment la gloire de Dieu. » Mais possiblement, vous n'avez pas la vision de Dieu pour voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Au Québec, on s'attend que Dieu va faire des grandes choses et on n'est pas rendu à cette place où la gloire éclate parmi nous. Mais je vous prophétise que la gloire s'en vient au Québec. Savez-vous ça? On y croit et on va le voir. Mais juste pour vous encourager, j'ai eu des statistiques récemment. Du frère Craig Berroker, je l'entendais prêcher, et puis il nous donnait des statistiques concernant l'avancement du royaume de Dieu à travers le monde. Et vous savez, des fois, on parle beaucoup des musulmans, comment, oh mon Dieu, sont partout, et puis ils prennent du terrain, et on confesse leur avancement constamment, on dit comment ils sont en train d'avancer. Et savez-vous, en fait, là, c'est pas vrai, que le regroupement ou l'idéologie spirituelle qui avance le plus rapidement au monde en ce moment, savez-vous, c'est qui? Les chrétiens. Alors, c'est ça qu'on devrait prononcer. C'est les chrétiens. On avance. Jésus avance. On prend plus de territoire. Arrêtons de parler des musulmans. Parlons de Jésus. À place, il est en train d'avancer. Son royaume avance. Et je vous donne des statistiques. Avant même, là, je vais vous lire un texte. Ésaïe 66, verset 8. La question nous est posée. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. La question, un pays peut-il naître en un jour? Et la réponse, c'est oui. Un pays peut naître en un jour. Est-ce que c'est possible? Oui, Israël, vous savez, 1948, cette nation-là, en un jour, elle a été déclarée une nation. Et moi, je crois que dans notre temps dans lequel nous vivons, nous pourrons voir une nation complètement se convertir au Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, on croit dans une transformation qui vient par la puissance du Saint-Esprit. Je vous dis des statistiques ici. Guatemala, présentement, il y a 50% de la population qui sont des enfants de Dieu. Savez-vous ça? Nous autres, on se dit, ah ben là, regardez la société québécoise, regardez comment ça s'en va, c'est-tu désolant, tout ça. Mais dans un jour, avec une visitation du Saint-Esprit, on peut voir 50%, même plus, se convertir à Jésus. Est-ce que c'est possible? Dieu nous dit que oui. 50%. Au Fidji, c'est 60% de la population. C'est une population chrétienne là-bas. 60% des gens qui connaissent Jésus-Christ, qui sont sauvés. N'est-ce pas merveilleux? Si on regarde juste notre situation actuelle, on se dit, Oh ben c'est désolant, mais si on regarde un petit peu plus loin et on voit qu'en ce moment, le Saint-Esprit est en train d'être répandu partout à travers le monde et il y a des nations qui disent oui à Dieu et comme ça, d'un seul coup, il y a des gens qui tournent à Dieu et on peut voir des statistiques comme ça. En Amérique du Sud, il y a plusieurs pays où sont 80% nés de nouveau. Pas juste des titres de chrétiens religieux, non, mais des gens nés de nouveau, 80%. Imaginez si au Québec, on avait 80% des gens qui étaient enfants de Dieu. Ça changerait notre société, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Mais il faut changer notre façon de croire. Et si on marche comme le peuple d'Israël et on dit, bien les géants sont dans le pays, il y a plein de problèmes, et on regarde juste sur les problèmes, au lieu de voir que Dieu est capable de renverser les choses, comme Caleb, et on dit, nous allons nous emparer de ce pays-là. Et c'est ça que Dieu nous appelle à faire, à croire que le miraculeux va se produire parmi nous, et que les masses vont se tourner vers Dieu. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'on croit que Dieu va faire quelque chose dans la francophonie. On croit qu'il va y avoir des masses qui vont se tourner vers Dieu, qui vont dire oui à Jésus. Savez-vous, il y a toute une génération de jeunes qui n'ont jamais été inculqués dans les voies de Dieu. Ils n'ont jamais été enseignés même dans le catholicisme. Ils n'ont aucune base. Alors nous, on arrive avec le seul message qui peut sauver des vies, transformer des vies, et avec la puissance de l'Esprit qui vient appuyer le message, avec des signes, des prodiges, des miracles. Bien, je vais vous dire, les jeunes, ils vont dire, c'est ça que je recherchais. Alors, toute une génération peut être sauvée dans un seul jour, avec des miracles, avec la présence de Dieu qui est relâchée sur la vie des gens. Mais est-ce qu'on y croit? Moi, je crois. Je crois pour le Québec. C'est tout beau de croire ça, OK? Mais une chose qu'on doit réaliser, c'est que le réveil dépend de nous. Ça dépend de nous. Parce que même si Dieu avait dit, je vous donne le pays, et même si Dieu nous dit aujourd'hui, je vous donne le Québec, allez, faut se lever et faire quelque chose pour voir la récolte. Une des choses qu'on doit faire, c'est prier et intercéder que la gloire de Dieu descende parmi nous. C'est vrai, n'est-ce pas? Moi, je crois que c'est correct d'écouter la télévision, écouter des films, mais si on écoute 25 heures par semaine de télévision et on prie 25 minutes par semaine, il y a une marge de différence ici, hein? Faut juste se réorganiser, mettre des priorités dans nos vies pour faciliter ce que Dieu veut faire parmi nous. Une chose aussi qu'on doit comprendre, et c'est dans Proverbe 29, verset 18. Présentement, qu'est-ce que je peux voir dans l'Église québécoise, c'est qu'il y a un chaos. Il y a un chaos dans nos églises. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je crois que le Seigneur veut changer ça. Si vous vous faites comprendre que quelque chose qui va pas, c'est pas juste pour qu'on en parle et dire, oh, c'est-tu plate, ouais, ça va pas. Non, c'est parce qu'à quelque part, ça peut changer. Ça peut changer. Même aujourd'hui, ça peut changer. Et les gens qui écoutent, qui vous écoutez par l'Internet aujourd'hui, moi je crois, si vous dites oui au Seigneur, vous aussi vous pouvez voir du changement dans votre vie. Dans Proverbes chapitre 29 et le verset 18, il est écrit dans la Louis II, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Donc, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Maintenant, je vais lire dans Bible du Semeur. C'est dit, quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Quand on n'a pas une révélation, une vision devant nous, pour l'appel de Dieu, pour notre vie personnelle, quand on ne comprend pas que Dieu a même un mandat pour l'Église de Jésus-Christ, quand on ne comprend pas qu'on est destiné à quelque chose, on n'a pas la vision devant nous pour savoir où aller. On peut demander aux gens, c'est quoi ta vision, toi, pour ta vie? Quelle est la vision de ton église locale que tu fréquentes? Et souvent, les gens vont dire, ben moi, je sais pas c'est quoi l'appel de Dieu sur ma vie. Ou même dans notre église, admettons, moi, j'ai rencontré plusieurs pasteurs et je leur ai posé la question, c'est quoi la vision de votre église? Et puis, ils vont me dire, bien, c'est d'avoir des âmes de sauver. OK, oui, mais nous sommes tous appelés à avoir des églises avec des âmes qui vont être sauvées dedans, n'est-ce pas? Donc, c'est pas spécifique à nous. Faut connaître le ADN personnel pour notre vie et pour le ministère dans lequel nous nous retrouvons. Alors, c'est super important d'avoir cette révélation divine-là. Et en français courant, le même texte, Proverbe 29, 18, il est écrit, « Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. » Il y a un désordre qui se passe dans nos églises parce que les gens n'ont pas de vision, ils ne savent pas où c'est qu'ils s'en vont, ils ne comprennent pas que Dieu a une destinée présentement et une stratégie pour rejoindre les gens. Alors on est là, on célèbre le Seigneur et on prie, on loue Dieu, on entend des messages pour avoir notre foi bâtie, mais on ne comprend pas que Dieu a une destinée présentement pour le peuple québécois et Dieu s'attend qu'on va faire quelque chose pour que sa gloire soit répandue sur nous, en nous et à travers nos vies. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce manque de vision-là? Il faut premièrement réaliser que nous avons un but. Nous avons tous, à quelque part, un but. Pourquoi vous avez été sauvés? Si je vous pose la question, pourquoi avez-vous été sauvés? Est-ce que le but de votre salut, c'était de venir vous asseoir à l'église et assister à des réunions chrétiennes évangéliques? Le Seigneur vous a pris du monde, vous étiez dans un bar, admettons, Dieu vous a attiré, vous a sauvé, rempli de son esprit pour venir vous asseoir sur une de ces chaises-là. C'était l'objectif numéro un. Est-ce que c'est ça pourquoi on a été sauvés? Non. C'est pas pour ça. Ça fait partie, oui, on vient à l'église, ça en fait partie, d'être édifié, d'être bâti dans la foi, mais c'est pas l'objectif numéro un. La stratégie divine. Une des choses qu'on doit comprendre, OK, c'est que Dieu nous appelle comme des soldats dans son armée. Et son armée avance. C'est l'objectif, en tout cas, c'est de voir son armée avancer. Et l'armée de Dieu avance dans plein de pays en ce moment. Même en Chine, il y a un réveil qui se passe en ce moment-là. Alors, il y a ces soldats-là qui marchent ensemble, mais en même temps, faut savoir dans quelle division nous sommes, admettons. Si on parle comme dans l'armée, faut connaître notre poste, où nous sommes assignés. Est-ce que c'est important? Admettons, vous êtes un soldat, vous êtes dans l'armée canadienne, comme notre frère Miguel qui est en Haïti en ce moment, mais s'il disait, ben moi, je pense que je vais aller en Barbade de ce temps-ci, il fait beau de ce temps-ci, puis il n'y a pas trop de problèmes là-bas, et puis moi, en tant que soldat, je décide de m'en aller au Barbade. Hein, on pourrait faire ça, mais savez-vous, dans nos églises chrétiennes, on dit bien, Dieu, bon, le Seigneur Jésus est mon commandant, mais moi, je vais décider aussi que je m'en vais, et puis je vais faire ma vie chrétienne à ma façon. Connaissez-vous des gens comme ça? Je vais me laisser guider, comment Dieu me dirige, juste ainsi. Et c'est correct d'être guidé, dirigé par Dieu, mais à quelque part, il faut se poser la question, est-ce que j'écoute la voix de Dieu pour ma vie? Est-ce que je prie et je demande à Dieu, Seigneur, c'est quoi que tu veux pour ma vie spécifique? Et quand on écoute, savez-vous, Dieu va nous parler. S'il y a des gens qui disent, ah ben Dieu, moi, il m'a jamais dit c'était quoi mon appel dans la vie, je le sais pas. Savez-vous que c'est pas Dieu qui sait pas c'est quoi votre appel? C'est juste vous le savez pas. Et savez-vous que Dieu vous le dit? Et c'est pas que Dieu est silencieux puis il veut vous garder dans l'ignorance et, ah, pauvre Joël, toi tu sais pas c'est quoi ton appel puis si tu plates, je veux pas te le dire non plus. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu veut vous le dire, il veut vous le communiquer, mais la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est d'écouter. C'est d'écouter pour savoir c'est quoi mon appel pour entrer dans ma destinée, pour être un soldat engagé dans l'appel de Dieu. Si vous ne savez pas encore c'est quoi votre appel, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de prier, fermer la télévision, concentrez-vous et recherchez la face de Dieu et demandez au Seigneur, c'est quoi que tu m'appelles à faire? Et Dieu peut-être va vous demander de faire quelque chose qui n'est pas glorieux au début. Mais si vous le faites et Dieu vous trouve fidèle, il va vous confier d'autres choses à faire. Mais moi, je ne crois pas que nous sommes sauvés pour venir à l'église et assister à des réunions chrétiennes évangéliques. Et c'est ça notre destinée, qu'on va tous être une gang de chrétiens au Québec, mais on va juste remplir des églises et on fera rien pour l'avancement du royaume de Dieu. Non, Dieu veut se servir de nous. Amen. Si vous respirez, vous êtes en vie, vous êtes supposé de faire quelque chose pour Dieu. Nous autres, là, dans cette église, moi, je prie que ça sera pas comme les églises normales. Au Québec, c'est 20% des gens dans les églises qui font quelque chose et 80% sont assis sur leur steak à rien faire. Moi, je veux l'inverse, ou je veux 100% engagé pour Dieu. Ce serait mieux, ça, n'est-ce pas? D'être tous engagés pour Dieu. Et là, vous allez peut-être dire, ouais, ben moi, mon appel, c'est pas d'être public, puis c'est correct. Savez-vous, vous pouvez travailler dans l'ombre. Et pendant que vous travaillez dans l'ombre, le royaume de Dieu peut avancer quand même. Peut-être Dieu vous appelle à intercéder, puis vous allez vous réveiller dans le milieu de la nuit à prier les desseins de Dieu pour l'armée de Dieu. Ça se peut que ça soit ça, dans l'ombre. Peut-être Dieu va vous appeler à créer des serveurs pour rejoindre les multitudes. Ça se peut-tu? Oui, ça se peut. On est tous différents, on a tous des dons différents, mais il faut demander au Seigneur, c'est quoi tu veux que je fasse? Tu sais, notre frère qui a investi du temps pour créer des serveurs pour rejoindre toute la planète, Saturne et Mars, tout ça, là. Mais c'est merveilleux. Mais il aurait pu dire, bon, qu'est-ce que ça donne? Il n'y a personne qui va le savoir. Mais non, son cœur, c'était, je veux voir l'avancement du royaume de Dieu. Alors, je m'implique, je vais faire quelque chose. Et on peut tous s'impliquer à des niveaux différents. Donc, notre priorité numéro un en tant qu'enfant de Dieu, bien, c'est d'aimer le Seigneur et comment ça va se transposer dans nos vies. Ça va être dans le service de Dieu. On va s'investir dans le royaume de Dieu. Est-ce que ça fait du sens, ça? S'investir dans les choses qu'on aime. C'est normal. On va s'investir dans qu'est-ce que Dieu aime. Et là, j'ai une bonne chose à vous dire. Si vous vous dites, ben, moi là, ça me tente pas de rien faire. J'ai pas le goût de rien faire. Je veux vous encourager. 2 Chroniques 16, 19. Il est écrit, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Le cœur est tout entier à lui. Si vous aimez le Seigneur, là, l'Éternel, il cherche partout sur la terre pour trouver des gens qui ont le cœur disposé pour lui. Et si vous dites, Seigneur, en ce moment, j'ai rien dans mon cœur, j'ai rien qui me tente, là, mais viens, visite-moi, éclaire-moi par ton esprit, montre-moi qu'est-ce que je suis supposé de faire, le Seigneur va vous soutenir dans ces choses-là. N'est-ce pas merveilleux? Moi, une des choses que j'ai racontées à mes parents, là, plusieurs années, je disais, moi, là, je veux que ma vie compte pour quelque chose. Je veux pas simplement vivre une vie pour me marier, avoir des enfants, m'acheter une maison, m'acheter un véhicule, vivre 80, 120 ans, mettons, et mourir, et que ce soit tout. Je veux que ma vie compte pour l'éternité. Je veux pas que ça compte juste pour du matériel. J'ai pas été sauvé, puis je suis pas sur cette terre juste pour m'acheter une maison, pour la laisser à quelqu'un d'autre après. On peut gaspiller notre vie et passer à côté de notre destinée, ou on peut dire, Seigneur, je veux l'investir pour ton royaume de Dieu, pour que ça porte du fruit jusque dans l'éternité. Amen. Mais ça dépend de notre cœur, ça dépend si on est réveillé et on a la vision devant nous que Dieu a quelque chose pour nous, quelque chose à faire. Une autre chose, peut-être vous dire, oui, mais moi j'ai à cœur de faire des choses, mais je suis trop petit. Peut-être est-ce que vous voyez comme une petite sauterelle, comme le peuple d'Israël, comme les espions qui disaient, ben moi, on est trop petit, on peut pas envahir ce pays-là, on peut pas prendre possession de cette terre. Mais dans Proverbe 18, verset 16, dans la version Darby, c'était la meilleure version pour trouver ce texte-là, ça nous dit, le don d'un homme lui fait faire place. Dans plusieurs versions francophones que je regardais cette semaine, ça disait toujours les dons ou les présents qu'une personne va donner va lui faire une place. Dans le sens, vous arrivez chez moi à souper, je vous invite à souper, vous arrivez, vous me donnez un beau cadeau, bien là, je vais vous aimer plus parce que vous venez de me donner un cadeau. Ça, c'est une mauvaise compréhension du texte. On va voir dans l'hébreu, et la bonne traduction, là, c'est le don que Dieu a déposé en vous. Je vais le relire. Le don, pas les dons, les cadeaux. Le don d'un homme lui fait faire place. Ou en Louis II, ça dit, lui élargit la voie et introduit devant les grands. Ou en Louis II, ça dit, il lui donne accès auprès des grands. Si vous êtes en Christ et vous réalisez que vous avez un don en dedans de vous, vous avez un don pour servir le Seigneur dans une capacité, bien, votre don va vous faire une place même auprès des grands de ce monde, parce que vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes un ambassadeur de Christ. Alors, pensez pas que vous êtes juste une petite sauterelle que vous ne pouvez rien faire, parce que Dieu a des grands projets pour vous. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a des grands projets pour vous? C'est parce que Dieu veut rejoindre la francophonie et il a besoin des serviteurs qui vont se mettre à l'œuvre pour Dieu. OK? Donc, le mythe là qu'on est sauvé pour réchauffer des bancs d'église, c'est justement ça, c'est un mythe. Et il faut que ça change. Une autre chose qu'on doit comprendre, vu qu'on n'a pas une vision globale dans nos églises, qu'on est vraiment appelé à faire quelque chose ou appelé à faire un changement, c'est qu'il y a 80% de roulement dans nos églises chrétiennes évangéliques au Québec. Savez-vous? 80% des gens dans nos églises, ils sont là pendant un temps, ils n'ont pas vraiment compris ou saisi une vision dans cette église-là, ils n'ont pas compris qu'il y avait une destinée ou un rôle à jouer dans cette église-là. Et donc, après un bout de temps, ils disent, ah, ben là, moi, je suis plus vraiment nourri. Je trouve plus ça vraiment le fun, là. La louange, je suis rendu pas mal tanné ou, j'ai pas vraiment beaucoup d'amis. Alors, là, je vais aller à Église B. Ah, après 2-3 ans, bof, là, je suis rendu un petit peu tanné, là aussi. Alors, là, je vais aller dans l'Église C, l'Église D, l'Église E, F, jusqu'à Z. Et on peut faire ça des années de temps. Mais quand on a une révélation que Dieu a une stratégie pour là où on est appelé, et on comprend, Seigneur, tu m'as appelé, pas juste pour réchauffer un banc d'église, mais je suis utile dans cette église-là pour faire quelque chose, bien là, on réalise que on quittera pas demain matin comme ça, parce que si je quitte, c'est mon travail dans l'œuvre de Dieu en tant que soldat qui va tomber. C'est comme on réalise que si moi je suis pas là pour faire ce job-là, quelqu'un d'autre là va peut-être prendre ma place, puis c'est pas ça que Dieu voulait pour moi. Dieu veut que je m'implique comme un soldat dans l'armée de Dieu, et on bouge seulement quand le commandant dit de bouger. des soldats qui prennent leurs décisions tout seuls, ça va toujours mal. Et je crois, si on voit 80% des gens dans nos églises qui se promènent d'une église à l'autre comme ça constamment, c'est parce qu'ils ont pas eu la révélation qu'ils sont appelés de Dieu pour faire quelque chose de spécifique. Ma prière, c'est que chaque personne de cette assemblée, que vous puissiez croire dans la vision et dire, oui, on va rejoindre la francophonie par le biais des médias. Oui, on va le faire ensemble. Et dans mon appel personnel, moi, je vais rentrer dedans aussi. Je suis un soldat engagé. Et je reste là. Je vous dis pas ça juste pour que vous soyez dans notre église. C'est pas ça. L'objectif, c'est que si tout le monde, même ceux qui m'écoutent par l'Internet aujourd'hui, si vous pouvez connaître la vision de votre église et vous investir à fond pour être un soldat engagé, le royaume de Dieu va avancer partout. Toutes les églises, on a tous un appel différent, un ADN différent. Alors, si tout le monde peut se connecter avec le bon ADN, bien, gloire à Dieu, on peut voir de l'avancement. Amen. C'est ça qui est important. Une autre chose que je dois vous partager, c'est que des fois on se dit, bien, je ne sais pas trop qu'est-ce que je dois faire, alors je vais choisir l'inaction ou l'inactivité. On ne fait rien, finalement. Je ne vais rien faire parce que je ne sais pas quoi faire. Savez-vous, des fois, là, juste servir, faire quelque chose, un service pour quelqu'un, c'est une façon de démarrer. Là. C'est une façon de commencer à travailler comme soldat dans l'armée de Dieu. Et l'inactivité, c'est une décision. Des fois, on dit, ah, ben, moi, je fais rien. Mais le fait de pas choisir de faire quelque chose, c'est une décision. Savez-vous ça? Le fait de choisir de ne rien faire, c'est une décision. Des fois, les gens disent, ben, moi, je suis sur le neutre, là. Je sais pas quoi faire. Je me mets sur le neutre. Alors, je vais laisser les choses aller comme ça. Mais le fait d'être sur le neutre, ça vous garde comme ça. Et vous avez décidé d'être sur le neutre. Et quand on est sur le neutre, savez-vous qu'est-ce qui se passe? On recule. On n'avance pas sur le neutre. On recule. Et dans nos églises, on a trop reculé. Et là, on s'est tellement reculé qu'on est tombé dans le fond du baril et on s'est endormi là. Et là, Dieu a besoin de brasser des choses pour nous réveiller. Mais gloire à Dieu, Dieu n'a pas fini avec nous. Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous. Et je crois aujourd'hui que le Seigneur veut faire des choses parmi nous. Mais il faut comprendre, premièrement, la vision de l'église. Et il faut comprendre aussi que Dieu a un appel pour notre vie. Quand on comprend ça, savez-vous qu'est-ce qui se passe? On commence à servir Dieu. Là, on a une joie dans le service. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais vous vous êtes impliqué et là, vous commencez à avoir du fun. Parce que Dieu aime ça bénir ses enfants. Alors, vous êtes impliqué à faire quelque chose pour Dieu et vous régalez dans le travail. Moi, là, j'ai commencé à servir le Seigneur à l'âge de 12 ans et toute ma vie, je peux vous dire que c'était pas difficile de résister aux tentations du monde parce que j'aimais trop ma vie avec Dieu. C'est vrai, ça. Quand on tripe au bout, là, on a du fun. Là, je m'en allais en mission comme on est allé en Haïti dans ma jeunesse, puis j'ai vu des miracles, plein de choses se passer. Ça me tentait-tu de dire, bon, finalement, je vais retourner dans le monde puis je vais faire des niaiseries? Non! Je passerai à côté toutes les bénédictions que Dieu en réserve pour moi. Alors, quand on s'engage et on fait quoi? Bien, gloire à Dieu, on est béni. Et des fois, Dieu a besoin d'un temps aussi pour venir guérir nos émotions. Parce que des fois, on a été blessé ailleurs. Alors, il y a un temps où Dieu aussi dit, « C'est-tu mon enfant? T'arrives, je te laisse guérir. » Et là, j'ai toute une série que j'ai enseignée, vous en rappelez, les racines, comment Dieu a besoin de guérir. Mais une fois qu'on est guéri, là, savez-vous, c'est temps de se lever. Et là, quand le soldat a été blessé, c'est correct, on le laisse à l'hôpital pendant un temps pour se guérir. Mais après, quand il est guéri, on ne le laisse pas là éternellement parce qu'il va avoir des plaies de lit. Et après, il va commencer à chialer. Et savez-vous, quand il est couché là, à rien faire pendant 20 ans, il va dire, « Ouais, ben, elle, là, quand elle fait telle affaire, elle ne fait pas vraiment bien. Et lui, quand il fait telle affaire, lui, il ne fait pas ça vraiment bien. Il devrait faire ça de même. » Et là, les autres qui sont couchés, les autres soldats couchés aussi qui font rien, ils disent, ben, lui, il fait pas ça comme ça. Ouais, c'est vrai, il fait pas ça de même comme il aurait dû. Puis, pasteur, t'as-tu remarqué sa cravate était tout croche ce dimanche? Et t'as-tu remarqué, il n'y en avait même pas ce dimanche-là? Il doit pas être vraiment spirituel. Faut prier pour lui. Mais savez-vous, là, les gens inactifs se mettent à parler. Et là, ils se mettent en alliance avec Satan, l'accusateur des frères, qui commence à maudire le corps de Christ. Et là, au lieu de voir l'avancement du royaume de Dieu, on est en train de l'attaquer et on se joint à l'armée des ténèbres pour voir l'avancement du royaume de Satan. Mais c'est de quoi ça? Aujourd'hui, on peut être éclairé et dire, moi, je veux être comme Caleb, qui a la vision de Dieu. Je veux être un visionnaire pour qu'est-ce que Dieu veut faire dans la province du Québec. Et moi, je vais connaître mon appel et je vais marcher dedans. Et des fois, on se dit, ben, moi, je suis appelé pour être comme j'ai déjà rencontré le prochain Billy Graham. Quelqu'un m'a dit ça. Moi, je suis le prochain Billy Graham. Ben, gloire à Dieu, mais est-ce que tu es prêt de servir dans des petites choses en ce moment? Et faut des fois être prêt à s'humilier et faire des choses jusqu'à temps qu'on rentre dans notre destinée. Il y a des gens qui disent, ben, moi, je ferai rien jusqu'à temps que je sois au summum. Mais vous vous y rendrez pas au summum sans de commencer par les basses choses dans l'humilité. Amen. Alors, moi, je crois, si aussi vous vous dites, bien, moi, j'ai plus de feu, j'ai plus le feu de mon salut. Au début de ma vie chrétienne, j'étais super emballé, j'étais content. Mais savez-vous, souvent, au début de votre vie chrétienne, vous étiez engagé. Est-ce que c'est vrai? Vous étiez engagé, vous alliez prier, votre cœur était pour les choses de Dieu. Alors, vous aviez un feu. Mais c'est comme un couple. Admettons, vous commencez à fréquenter une jeune fille ou si vous êtes une femme, un jeune homme. Au début, là, vous allez faire des choses ensemble. Vous allez au cinéma, vous allez manger de la bonne nourriture, vous allez avoir du bon temps ensemble. Et là, vous allez être en feu, enflammé d'amour, n'est-ce pas? Ça devrait, hein? C'est ça d'habitude, là. Bon, ça, c'est dans votre côté relationnel, là, romantique. Mais là, après 20 ans de mariage, des fois, on voit ça au restaurant. Il y a un couple, ils sont assis là, le monsieur, il a son journal, il mange et il ne se parle pas pendant une heure. Et là, moi, ça donne, mon épouse et moi, on est assis au restaurant, la table à côté d'eux. Et moi, je n'aime pas ça, parce que je me dis, écoute, ils vont tout entendre ce qu'on dit, ils ne se parlent pas, eux autres. Là, des fois, on dirait, excusez, est-ce qu'on pourrait avoir un mur qui s'installerait ici? Là? Non, on ne peut pas. Mais à quelque part, quand on s'aime, là, on s'entretient. On s'entretient. Si dans votre couple, c'est rendu un petit peu plate, là, entretenez-vous. Si ça fait 20 ans que vous n'avez pas sorti votre conjointe, votre épouse au restaurant là, ou au cinéma, faites-le. Révélation divine, faites-le. Non, mais c'est vrai, ça va ranimer la flamme. Mais c'est sûr, on fait des choses au début de nos fréquentations, puis après on arrête tout ça, puis on se demande comment ça, on n'a plus de feu. Mais c'est la même chose avec Dieu. On fait plus rien avec Dieu, on prie plus, on lit plus notre Bible, on va plus à l'église, on s'implique plus, on fait plus rien, puis... C'est drôle, je comprends pas, j'ai plus le feu que j'avais. Mais prenez le pas, même avant d'avoir le feu. Je vais prendre un pas, je vais aller dans une réunion de prière d'intercession régionale ce mercredi soir. Je vais y aller une fois, et puis je vais prendre un pas par la foi. J'ai rien qui me dit d'y aller, ça me tente même pas. C'est correct. Moi, je suis allé dans des réunions, ça me tentait pas d'y aller. Mais je suis allé, et puis quand j'étais là, j'ai reçu un cadeau de Dieu. J'ai reçu une parole pour ma vie. J'ai reçu une bénédiction qui vient me donner un feu. Mais des fois, il faut se parler, même quand ça ne nous tente pas. On va sortir un livre, quand ça ne nous tente pas. Amen. Alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, si vous voulez du feu dans votre vie, faites quelque chose. Prenez-vous en main et on va emparer le pays ensemble. Comment? Je viens d'en parler pendant une demi-heure. Alors, changez de camp. Si vous êtes dans le camp du doute, prenez la décision aujourd'hui de changer de camp. Comment est-ce qu'on fait ça? Bon, premièrement, on comprend qu'il y a deux camps, le camp de la foi, camp du doute. Si vous comprenez que vous avez un héritage, okay? On va parler, l'héritage, ça peut être l'unité régionale, comme on croit à nous. Si on croit que Dieu va faire quelque chose dans notre région, comme on va prier ensemble. Ça peut être aussi au niveau de la sainteté, que vous avez besoin, le pays de la sainteté, d'établir dans vos vies. La santé, peut-être. Peut-être c'est votre famille, peut-être c'est vos finances. Il y a un pays pour vous à aller conquérir. Comment allez-vous faire? Vous devez apporter les paroles, ou adopter plutôt, les paroles de votre commandant. Et je vais vous lire quelque chose. Nos paroles et la façon qu'on pense, tout ça, c'est très important. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 et le verset 5, il est écrit, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Les gens que vous côtoyez vont déterminer votre attitude. Si vous êtes toujours avec des gens négatifs, vous croyez que Dieu va faire un miracle dans la francophonie, vous croyez pour un miracle personnel dans votre vie et vous en parlez, vous êtes rempli de joie, rempli de feu et quelqu'un à côté de vous est là pour siphonner toute la foi, pour vous laisser sans la foi, mais rempli de doute. Faites attention si vous êtes dans le mauvais camp. Et peut-être vous allez dire, OK, moi, les soldats qui sont avec moi sont tous endormis. Moi, je veux faire attention pour pas m'endormir avec eux. Alors, je vais changer de camp. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus les gens, mais on va choisir de côtoyer des gens qui croient Dieu, qui croient ses promesses. C'est super important. Et dans Hébreux 4:12, vous allez dire, mais comment est-ce qu'on peut vraiment connaître les promesses de Dieu? Mais c'est en tournant nos regards dans la parole. C'est simple. Hébreux 4:12, ça dit, la parole de Dieu est vivante et efficace. Voyez-vous, elle est vivante, la parole de Dieu. Quand on tourne nos regards dans la parole, on reçoit la vie. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Peut-être vous êtes comme un yo-yo, puis des fois ça vous tente, des fois ça vous tente pas. Des fois vos sentiments vont vous dire allez-y, allez-y pas, ou faites ci, faites pas ça. Mais faut pas être guidé par nos sentiments. Imaginez si les soldats canadiens en Haïti en ce moment disaient j'ai pas le goût de me lever là, c'est trop difficile. J'ai pas le goût. Les sentiments. Imaginez comment ça marcherait. Mais pourtant, dans le royaume de Dieu, l'armée de Dieu, il y en a beaucoup, 80% sont guidés par leurs sentiments. Voyez-vous qu'il y a du désordre? Voyez-vous le chaos qu'on voit dans l'Église présentement? On est guidé par nos sentiments, puis c'est pas ça que Dieu nous appelle à vivre. Jean 17:17, ça dit « Sanctifiez-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » C'est ça qu'on doit faire, c'est dire, OK, le commandant en chef, c'est lui qui a la vérité. C'est pas mes sentiments, c'est pas mes pensées, mais c'est sa parole. Amen. Et par la suite, quand je crois les paroles de Dieu, là, je vais mettre en accord avec ce qu'il dit. Dans Proverbe 18:21, ça dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. » Il y a des gens qui ont de la misère avec ça, mais est-ce que vous l'avez lu comme moi dans la parole? Si vous parlez la mort, devinez qu'est-ce que vous allez récolter dans votre vie. La mort. Ça, c'est rien de nouvel âge. C'est la Bible ici. Si vous parlez toujours la mort, ben oui, un pays à atteindre, mais on va parler des géants pendant 3 heures. Les géants sont-ils gros? Sont-ils musclés? On dirait qu'ils sont méchants. Et là, on s'entretient toujours en parlant des discours négatifs qui viennent nous voler la foi. Les géants sont là, oui, mais commencez à magnifier la grandeur de Dieu. Si vous commencez à voir, oui, il y a des géants, mais Dieu, oh, mon Dieu, est beaucoup plus grand que les géants. Là, on commence de parler. On parle des choses de Dieu et de la grandeur de Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez devenir contaminé avec quelque chose. 2 Corinthiens 4:13. Et comme nous avons le même esprit de foi, vous allez contaminer avec l'esprit de foi. Vous allez devenir positif. Wow! Quel changement! Quelle révolution dans nos églises. Et là, les gens vont vous accuser. Vous êtes trop positifs, vous autres. Et ça donne que je pense comme Dieu et je parle comme Dieu. Et ça donne que mon Dieu n'est pas dépressif. Mon Dieu est positif. Alors moi, je veux être comme Dieu. 2 Corinthiens 4:13, ça dit, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Remarquez ça, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Dans l'Église, souvent on dit, j'ai douté, c'est pourquoi j'ai parlé. Faut renverser ça. Si vous doutez, parlez pas. C'est mieux de même. Mais quand on parle, là, la Bible dit, c'est parce qu'on a cru. Quand on parle, c'est parce que ça vaut la peine de le dire. N'est-ce pas? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Hey, quelle révélation! On parle quand on a quelque chose de bon à dire. C'est-tu bon, ça? Imaginez si tout le monde parlait parce qu'il croyait que le Québec serait sauvé. Au lieu de dire, ouais, on vit-tu de la division dans les églises? Il y a plein d'affaires. Moi, des fois, je priais avec des gens, puis l'autre fois, je priais avec des frères dans le Seigneur, puis ils disaient, oh, on est vraiment divisé dans le corps de Christ, faut prier. J'ai dit, ah, oh, moi là, je vois pas ça qu'on est divisé dans le corps de Christ. Moi là, je suis uni avec vous autres. Moi, je vous aime au bout. Et même si on n'est pas dans la même église, savez-vous, l'église c'est comme du yogourt. Il y en a pour toutes les saveurs. Gloire à Dieu pour ça. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est comme ça que je vois ça. Il y a des gens, oh, vous êtes divisés. Non, moi, je suis pas divisé. Moi, je les aime, mes frères baptistes. J'aime mes frères en Christ. J'aime les istes que vous voulez. Je les aime. C'est pas parce qu'on n'est pas dans la même réunion qu'on s'aime pas et que je suis divisé. Je suis pas divisé avec personne. Juste le diable. Lui, là, je peux pas le sentir. Mais, mes frères et mes sœurs, même si on n'a pas la même interprétation de tout, moi, je peux les aimer quand même. Et je marche, moi, je le déclare publiquement, je marche uni avec mes frères et mes sœurs. Tout le monde qui aime Jésus, c'est mon frère et ma sœur. Bon, sauf que ça, J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si on peut adopter ça, là, je suis un soldat, moi je vais parler quand je vais croire. Si je vais parler le doute puis toujours décourager tout le monde autour de moi, je suis mieux de m'affirmer. C'est poétique hein, comme langage. Mais je vais, on mijote. Est-ce que je m'en allais dire, c'était pour bâtir le corps de Christ, les encourager à s'attendre qu'on va avoir le pays? Ou est-ce que c'était pour enlever la foi des gens? Hébreux 10, 23, dans français courant, ça dit « Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. » Dieu reste toujours fidèle à ses promesses. Vous avez un besoin dans votre vie, trouvez la promesse qui s'attache à votre besoin. Vous avez besoin de finances, prenez un verset de la parole de Dieu qui s'applique et croyez et mettez votre vie en règle, certainement. Et côté santé, côté dépression, peu importe le besoin, prenez les promesses de Dieu et méditez sur ces promesses de Dieu-là. Dans Josué 1:8, ça vous dit que quand vous allez faire ça, vous allez vivre le succès dans ces choses-là. Donc ça, c'est la recette divine, c'est de croire Dieu, de croire Dieu. Et dans Éphésiens 4, 29, ça dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Si notre discours, c'est toujours un discours qui décourage les gens. Savez-vous, aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision et dire « Seigneur, je te demande pardon parce que je parlais toujours le contraire de ta volonté. Oui, je crois que tu es mon commandant, mais je parlais toujours en défense de l'armée adverse. » Aujourd'hui, je te demande pardon. Et si, Seigneur, tu dis, on est capable d'aller emparer ce pays-là, moi, je vais dire pareil comme toi. Je me repens aujourd'hui de parler toujours le contraire de ta volonté. Mais je vais m'unir avec ce que tu dis. Est-ce que ça a fait du sens, ça? Imaginez les soldats qui s'en allaient au combat contre Adolf Hitler. Puis, ils parlaient toujours entre eux autres. Puis, ils disaient, ouais, mais on va vraiment la perdre, la guerre. Regarde comment ils sont forts. Là. Regarde Adolf Hitler, là. Ils sont bien trop puissants pour nous autres. On sera pas capables. Puis, regarde comment ils sont habillés. Puis, regarde comment ils ont de l'argent. Puis, regarde, tu sais. Ah, ouais. Mais là, les troupes, là, seraient-tu motivés? Mais, on est comme ça dans nos églises, puis c'est correct. Parce qu'on est réaliste. Savez-vous, Dieu nous appelle pas à être réaliste. Dieu nous appelle pas. Quand est-ce qu'on a pensé qu'on était supposé être réaliste? On n'est pas dans le monde naturel. Oui, on vit dans le monde, mais on ne fait pas partie de ce monde. On est premièrement un esprit qui habite un corps, et cet esprit-là est connecté avec l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu est au-dessus de toutes les choses dans le naturel. Alors, on se connecte à celui qui a créé le ciel et la terre, et je peux vous dire que celui-là, le Dieu, notre Créateur, il n'en a pas de problème, lui. Pour sauver toute la planète, il n'en a pas de problème. Il sait comment faire. Mais il a besoin de nous. Il a besoin qu'on prie. Il a besoin qu'on soit actif dans son royaume. Si tout le monde, au lieu là, d'avoir 80% là, des gens ici, que l'année prochaine, vous allez dans une autre église, je prie que chaque personne ici, aujourd'hui, que vous recevez la révélation que j'ai quelque chose à faire dans l'armée et je veux me rendre actif et engagé pour Dieu. Puis il y en a des églises, ça fait 30 ans que les gens sont là, sont fidèles, parce qu'ils ont compris qu'ils ont quelque chose à faire. Il y en a d'autres aussi qui sont là 30 ans, puis ils sont juste là par religion, puis par obligation, par un esprit religieux qui les retient aussi. Vous savez, il y a des gens qui sont venus, qui nous ont visités, qui ont dit, « Oh, on aime ça votre église. Oh, j'aime pas mon église. » Ils sont encore dans leur église. Cherchez le mystère, je ne comprends pas. Mais si Dieu vous appelle à une place, vous allez être content d'être là, et vous allez être content de servir, et vous allez être un soldat vraiment engagé. Amen. Une autre chose, vous n'endormez pas encore. Donc, on adopte le vocabulaire de Dieu, tout ça. La prochaine chose, suivez la loi du commandement. Si vous essayez de faire des choses pour Dieu, vous allez essayer de faire des grandes choses pour Dieu. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est comprendre une loi, une seule loi. Vous allez dire, ouais, mais on ne fait pas partie de la dispensation de la loi. C'est vrai, mais il y a encore une loi qu'on doit suivre aujourd'hui. Et je vais vous inviter à tourner dans Galates, chapitre 5 et le verset 14. Galates 5, verset 14, dans la Bible du Semeur, il est écrit « La loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même, mais si vous vous blessez les uns les autres et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. » On peut avancer dans le royaume de Dieu et l'armée de Dieu peut avancer si on adopte cette loi-là. Une loi, c'est de s'aimer les uns les autres. Wow! Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain. Au lieu de parler contre lui puis le maudire, c'est un soldat avec toi, là, dans la même armée. Vous êtes ensemble. Vous allez dans l'avancement du royaume de Dieu. Au lieu de le maudire puis essayer de casser une jambe pendant que vous avancez ensemble. Non! Aimez-vous les uns les autres. C'est ça que Dieu nous dit de faire. C'est une loi simple à comprendre pourtant. Hein? C'est simple de s'aimer, mais c'est tellement difficile de le vivre, on dirait. On doit cesser de marcher dans l'immaturité. Moi, je crois que Dieu veut faire des grandes choses au Québec. Il veut sauver la population. Moi, je crois, là, on pourrait le voir prochainement, 50%, tous les jeunes se sont convertis à Jésus-Christ. Il y a eu un vent du Saint-Esprit, il y a eu une grosse vague, et dans cette vague, l'Esprit de Dieu est venu prendre toutes les âmes qui étaient mûres. Je crois que c'est possible. Mais si le corps de Christ n'a aucun focus, on est tous comme, on ne sait pas où c'est qu'on s'en va, on n'a aucune vision, on marche dans le désordre. Et en plus, non seulement est-ce qu'on est confus comme ça, mais là, dans notre désordre, on se pisse les pieds, puis « Hey, toi là! » Puis on se donne des coups de pied, puis on se maudit, puis on a la chicane dans les églises. Là, le diable, il se réjouit, il voit les troupes de Dieu, ils l'auront jamais. Ils sont même pas capables de marcher ensemble. Ils se chicanent tout le temps. C'est les bébés là-là. Et c'est ça qu'il voit, le diable. Et nous, on n'est pas plus fins. Mais savez-vous, moi je dis, on change. On a une révélation aujourd'hui qu'on va faire comme Caleb. Et on va dire, nous sommes capables d'entrer dans le pays. On choisit de parler comme Dieu. On choisit de se bénir mutuellement. Et en plus, on choisit de s'aimer au bout. Et savez-vous, quand quelqu'un fait quelque chose qui nous fait mal, je le pardonne. Et savez-vous, j'ai la foi que Dieu va y parler. Et s'il est vraiment conduit de l'esprit, il va me demander pardon. Puis là, ça va être merveilleux, je vais pouvoir lui dire, je te pardonne. Mais s'il se repent jamais, est-ce que je suis capable de l'aimer quand même? Oui. Révélation numéro 2. Oui. Oui, je suis capable de l'aimer quand même. Ouais, mais il croit pas la même affaire que toi sur cette doctrine-là. Comment peux-tu marcher avec lui? Ça dérange pas. Je l'aime quand même. On peut marcher ensemble. C'est pour ça qu'on invite les gens aux réunions d'intercession régionale. Parce qu'on croit ensemble comme on va prier et s'unir et s'aimer véritablement et répondre à cette loi-là que Dieu nous a donnée. On a juste une à suivre. Puis ça l'accomplit tout le restant de l'Ancien Testament. Alors, on s'aime mutuellement. Et là, comme on prie ensemble, Dieu dit, « Wow, là, je peux bénir. Là, je peux répandre mon esprit sur vous autres. Là, je peux me servir de vous. Et là, mes soldats, vous pouvez vous lever et aller combattre dans cette affaire. Et vous pouvez vous lever. Et par mon esprit, savez-vous, vous allez vous lever. Mais en réalité, c'est même pas vous qui va combattre. Vous combattrez même pas dans cette affaire parce que c'est mon esprit à travers vous. Parce que ce n'est ni par notre force, mais c'est par son esprit. C'est vraiment ça. C'est l'esprit de Dieu. Et là, nous autres, on a tassé les choses, les petits bobos, on les a mis de côté, on a choisi de marcher avec Dieu. Et là, Dieu nous équipe. Et là, on a les plus grandes missiles dans le camp de l'ennemi. C'est l'amour de Dieu entre nous qui marche. Gloire à Dieu! Alléluia! Alors, une des choses qu'on doit faire, choisir l'amour, et l'autre affaire, ne cherchez pas l'amour. Ne cherchez pas l'amour. Comment ça? Écoutez bien. Parce que Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. Dieu est amour et vous avez déjà l'amour de Dieu en vous. Des fois, on dit, je vais prier que Dieu me donne l'amour pour ce frère-là. Il me dérange vraiment, là. Je vais prier. Non. Vous n'avez pas besoin de prier parce que Dieu est amour et Dieu habite en vous si vous êtes un enfant de Dieu. Et vous avez déjà le fruit de l'esprit en dedans de vous. Et le fruit de l'esprit, ça donne que l'amour fait partie du package deal. Alors, vous avez l'amour de Dieu en dedans de vous. Et vous avez juste à choisir l'amour. Même si vous ne sentez pas, parce que vous n'êtes pas guidé par vos émotions, vous êtes guidé par l'Esprit de Dieu. Et je choisis d'aimer cette personne-là qui me dérange. Mais savez-vous, quand vous allez tellement l'aimer, qu'est-ce qui vous dérangeait autrefois, peut-être vous dérangera même plus. Parce que vous allez tellement dans la grâce de Dieu que Dieu va vous aider. Donc, recherchez pas l'amour. Seigneur, donne-moi de l'amour. Vous l'avez déjà dans vous. Choisissez de marcher dans l'amour. Amen. Galates 5, 22, 23, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, vous pouvez continuer. Et 1 Jean 3, 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il demeure dans la mort spirituelle. Une autre chose qu'on doit faire, on ne veut pas rechercher la victoire. J'essaie d'avoir la victoire sur telle affaire. J'essaie. Je veux avoir la victoire. Seigneur, je prie pour avoir la victoire. Ne recherchez pas la victoire parce que vous avez le victorieux qui habite en vous. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous quand vous êtes un enfant de Dieu? Oui. Est-ce que le Saint-Esprit est victorieux ou c'est un défaitiste? Non, il est victorieux. Donc, vous avez le victorieux qui vous habite. N'est-ce pas merveilleux? Là, vous avez besoin d'une dernière révélation, puis c'est le même prix. Galates, chapitre 2 et le verset 20. Ça dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alors, j'ai pas besoin de rechercher à droite et à gauche et regarder par les étoiles et « Seigneur, donne-moi la victoire. » Non, vous avez le victorieux en dedans de vous et vous avez juste à réaliser que le Joel Spinks pécheur qui détestait tout le monde, là, mais il est mort. Celui-là, il est mort. Et là, tu as celui qui aime et tu as en plus celui qui a été renouvelé par le Saint-Esprit, qui a été régénéré. Il est vivant, rempli de l'amour de Dieu et rempli de la victoire de Dieu parce que le victorieux habite en lui. La victoire n'est pas à l'extérieur de moi-même, elle est exclusivement en Christ qui habite en moi. Est-ce que vous pouvez vous voir comme ça? Est-ce que vous pouvez vous voir comme étant cette personne victorieuse? Si vous changez votre vision, au lieu de voir tous les bobos que vous avez dans votre vie, mais vous commencez à voir, moi je suis victorieux, eh bien là ça va changer les choses dans le monde spirituel, dans votre démarche. Savez-vous quand vous marchez la tête comme ça puis vous pensez que vous êtes un loser, savez-vous qu'est-ce que les gens pensent de vous? Que vous êtes un loser. Et vous vous promenez comme ça. Mais Dieu ne veut pas que vous marchiez comme un loser. Il dit, relève la tête. J'ai fait de vous des victorieux. J'ai même pris la peine d'aller vivre en vous pour vous donner la victoire dans vos vies. Une dernière parole. 2 Corinthiens 2,14, la Bible du Sommeur, ça dit, je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours, dites toujours, au cortège triomphal de Christ. Par notre union avec lui. Voyez-vous, c'est notre union avec Dieu qui fait en sorte qu'on fait toujours partie du cortège triomphal de Dieu. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum à la connaissance de Christ. En tout lieu, quand je me promène et quand vous vous promenez, les gens peuvent ressentir la victoire. Alors, ça sent la victoire ici. Ça sent la victoire, ça sent la joie, ça sent la délivrance, ça sent toutes ces choses-là parce que le Créateur de l'univers habite cette personne-là. Wow! Hey, je vais vous donner juste 3 autres promesses, OK? Vous êtes capable de taffer ça? OK, oui, vous êtes capable. Savourez la victoire. Je vous donne 3 autres versets là pour vous donner ça dans votre bouche, ça va goûter bon. Des promesses de victoire. Savez-vous, Dieu avait dit au peuple d'Israël, tout endroit, dans Deutéronome 11, 24 à 25, Deutéronome 11, 24 à 25, tout endroit sur lequel vous poserez le pied vous appartiendra. Personne ne pourra vous résister. C'est la même chose. Si Dieu nous donne le Québec, il n'y a personne qui pourra nous résister. En plus, si on a besoin d'autres soldats, et on va prier, et on va demander à notre commandant, Seigneur, on a besoin d'autres soldats pour nous aider, on a besoin des gens équipés dans les choses techniques. Moi, j'ai jamais travaillé dans les choses techniques. J'étais en avant de la caméra quand j'étais à la télévision. Donc, je connais rien là-dedans, des affaires techniques. Mais Dieu connaît ceux qui connaissent ces choses-là. Savez-vous? Et là, Dieu, par son esprit, appelle ceux qui sont appelés pour nous aider. Et là, même, Seigneur, on a besoin d'autres personnes. On a besoin de la formation. Moi, je priais ça même pour l'école biblique. On veut donner des cours d'école biblique. Seigneur, est-ce que ça donnerait que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait venir nous aider là-dedans? Et là, Dieu dit, je vais regarder. Ah oui, Jérémy en France. Bon, OK, Jérémy, déménage donc. Joël Spink, si tu as appelé, il a besoin de ton aide. Et c'est comme ça marche. On prie les desseins de Dieu. Et Dieu bâtit son équipe. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, personne ne pourra nous résister parce que on a Dieu de notre côté. C'est celui qui est toujours gagnant. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Avec Dieu. Pas tout seul. Allez-y, pas tout seul. Mais avec Dieu en vous, avec son amour, avec sa puissance, avec votre désir de marcher dans l'unité, et avec la vision de la victoire devant vous, vous allez faire des exploits. Et Matthieu 11, 12, le dernier verset, Matthieu 11, 12. Ce sont les violents qui s'en emparent, en parlant du royaume. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Faut être violent nous autres-mêmes. Et dire, OK, là, Ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps que je suis assis à remplir les sièges d'église. Maintenant, j'ai saisi que j'avais une destinée. Maintenant, je m'engage. Je réponds à mon appel. Je peux-tu vous raconter une dernière histoire? Amen. Il y en a qui... Ça sent le McDo. Ça sent la victoire, c'est vrai. J'ai écouté un témoignage. Mon frère Dominique m'a prêté un DVD. Et je trouve ça très bon. C'est le pasteur Bevere. John Bevere? John Bevere. Il racontait une histoire vraiment, vraiment capotante. Et je vais vous en partager un petit peu. Il racontait que quand on va être au ciel, le Seigneur va nous récompenser, pas pour notre activité ou même pour les belles choses qu'on va avoir faites. Il va nous récompenser pour notre obéissance. C'est ça, en tout cas, c'est vraiment, vraiment quelque chose de grand. Parce que vous pouvez passer votre vie à faire des choses merveilleuses. Admettons, vous vous dites, mais moi, je vais faire du travail de missionnaire, je vais aller passer 10 ans en Haïti et je vais aider les gens là-bas. Ça serait louable, ça serait bien, merveilleux. Mais ça se peut que vous allez vous rendre au ciel et avoir zéro récompense pour ça. Pourquoi? Parce que si Dieu ne vous avait pas demandé de faire ça, puis vous vous avez demandé de faire d'autres choses, vous allez avoir zéro récompense pour cette œuvre-là parce que c'était pas l'œuvre que Dieu avait en projet pour vous. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Il raconte l'histoire. OK, il y a un homme qui est assis dans une église, une très, très grande église. Et le pasteur senior de cette église-là voit toujours une personne assise dans une des rangées-là. Et il y a toujours une personne qui pleure, toujours triste. Puis, au début, le pasteur il pensait que la personne était touchée par l'Esprit de Dieu. Mais après, un bout de temps, il dit, la personne a de l'air dépressive, elle a de l'air vraiment triste. Là. Alors, une fois, il est allé voir la personne en question, puis il dit, écoute, je vois que tu pleures dans chaque réunion. Veux-tu me partager un petit peu qu'est-ce qui se passe? Et puis, là, ce frère-là, et peut-être je raconte ça un petit peu tout croche, là, mais en tout cas, que Dieu me pardonne. Mais en tout cas, le frère, il dit, Dieu m'avait appelé d'être un pasteur dans cette ville, et j'ai même essayé d'ouvrir l'église, et j'ai essayé de faire des choses, et j'avais même proposé un plan au niveau de la ville, et puis la ville a refusé ce plan-là, alors j'ai tout abandonné le projet. Mais maintenant, il dit, chaque dimanche que je viens ici, il dit, le même plan que le Seigneur m'avait donné pour l'église, c'est ici, mais c'est pas moi le pasteur, c'est toi. Puis en tout cas, c'est ça que j'ai trouvé comme histoire. C'est comme, si on répond pas à l'appel spécifique pour notre vie, Dieu, il dit pas, coudonc, je peux plus le faire. Non, Dieu dit next. Prochaine personne. C'est qui va obéir? Il y a des gens que Dieu a appelé à faire des choses. Et si on dit, non, ça m'intéresse pas, correct, on va utiliser quelqu'un d'autre. Parce que Dieu, il veut que ça l'avance. Il arrêtera pas à cause de nous. Il veut l'avancement de son royaume. Alors, c'est super important de savoir qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire et de répondre avec un oui, parce que là, le royaume de Dieu avance. Et quand on va arriver au ciel, admettons, si Dieu m'a appelé comme pasteur, et je crois que oui, et il dit, pasteur Joël, viens ici recevoir ta récompense, je vais avoir la récompense pour l'obéissance. Mais si, admettons, je m'appelle Simon, admettons, et là, Dieu appelle comptable Simon, viens recevoir ta récompense pour le comptable. « Ouais, mais j'ai pas été comptable. » excusez. Si, admettons, je m'appelle Simon. Je recommence. Okay. Et admettons, j'étais un pasteur. Toute ma vie, j'étais pasteur. Mais en fait, Dieu m'avait appelé à être un comptable et j'ai pas rempli l'appel de Dieu. Bien, Dieu, quand il va me juger, selon l'appel. Il va dire, tu n'as pas rempli ton appel. Tu étais pasteur, mais je t'ai demandé d'être comptable. Puis si tu avais été comptable, je t'aurais donné la sagesse pour savoir comment opérer les choses de Dieu. Et à cause de toi, il y aurait eu plus d'argent dans le royaume. Et à cause de toi, plus de personnes auraient été sauvées. Et voici toutes ces personnes-là qui n'ont pas connu Dieu à cause de toi. Wow! En tout cas, j'écoutais ce message-là et je répète là, des choses, peut-être c'est pas 100% exact sur tout ce qu'il dit, mais tout ça pour dire que faut connaître ce que Dieu nous appelle à faire. C'est super important parce qu'on va être récompensé selon notre obéissance, pas selon le travail qu'on va avoir fait. C'est super, c'est révolutionnaire ça. Donc, on veut juste faire ce qu'il nous demande de faire. Juste ça. On peut passer notre vie et impressionner les gens. « Hey, regardez ce que j'ai fait. » Oui, mais Dieu, t'as-tu appelé à le faire? Tu sais, des fois, on peut mal comprendre le plan de Dieu. Mais si aujourd'hui, on dit « Ok, Seigneur, je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi. » Montre-moi qu'est-ce que je vais faire. Mais là, ensemble, tout le monde, si on connaît tous notre appel et on marche tous ensemble, bien, regardez comment on va être fort. On va tous être forts et on va prendre des pas, des pas de géant ensemble. Est-ce que c'est possible, pensez-vous? Amen. Amen. Moi, j'ai la foi qu'on va tous entrer dans notre destinée. Il n'y a personne ici qui va perdre son temps. Amen. On ne perd pas notre temps, on ne vit pas une religion chrétienne évangélique, on vit une vraie vie chrétienne victorieuse. Et on répond tous à l'appel de Dieu. Moi, j'ai la foi. Vous répondez tous. Dites, je réponds à mon appel. Amen. Voyez-vous, vous venez de décréter ça. Là, vous êtes obligés de le faire. Amen. On va prier ensemble. Gloire à Dieu. Seigneur, on veut te remercier pour ton amour pour nous. On te remercie, Seigneur, que tu nous as tous appelés à faire quelque chose. Et Seigneur, je prie maintenant que le désordre qui règne dans la francophonie, et même ici, peut-être dans notre région, je prie qu'aujourd'hui, qu'il puisse avoir un réveil, Seigneur, dans la vie des gens. Qu'on puisse se réveiller et comprendre, Seigneur, qu'on a un devoir, un appel spécifique pour notre vie. Et qu'on puisse entrer dans cet appel-là. Qu'on puisse être stable. Oui, Seigneur, je prie pour la stabilité dans la vie des gens. Que les gens puissent marcher avec toi et répondre comme un bon soldat qui marche selon les ordres de son commandant. Seigneur, on veut se repentir pour les fois où on a permis aux émotions, aux sentiments de nous guider. Et aujourd'hui, on dit, Seigneur Jésus, tu es véritablement notre chef. Tu es vraiment le roi des rois et ça commence dans ma vie. Seigneur, je veux te servir avec ma vie. Je veux voir ton royaume avancer et je choisis aujourd'hui de marcher dans l'amour. Je choisis aujourd'hui de parler comme toi, de croire ta parole, de croire tes promesses, Seigneur Jésus. Merci pour la révolution qu'on s'apprête à vivre au Québec et partout à travers la francophonie. Merci Seigneur et pour ceux par l'Internet aujourd'hui qui sont peut-être liés par la crainte, qui ont peur de prendre un pas par la foi, au nom de Jésus, je brise cette chose-là sur vous et je déclare la liberté. Je décrète que vous entrez dans votre destinée. Aujourd'hui, ça devient clair comme l'eau de roche. Si vous êtes dans les ténèbres et vous vous demandez, ben, qu'est-ce que je vais faire? J'appelle la lumière du ciel qui vient éclairer votre chemin aujourd'hui, que vous pouvez dire oui à l'appel de Dieu et que vous puissiez vraiment savourer la raison pour laquelle vous avez été sauvés. J'ai pris au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut donner une main d'applaudissement au Seigneur pour la liberté qu'il nous donne. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Sois loué. Merci, Seigneur Dieu, pour l'avancement de ton royaume. Merci, Seigneur Dieu. Gloire à toi. Amen. Amen. J'espère ce matin que vous avez appris quelque chose ou si vous avez rien appris, qu'au moins vous avez été stimulé dans votre foi pour continuer dans le bon combat de la foi. C'est le seul combat que Dieu nous appelle à être engagé dedans. C'est le combat de la foi. Et comme on continue, bien, il n'y a pas de limite pour qu'est-ce que Dieu va faire à travers nos vies. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.